vraiment de faire silence parce que s'il y a un écho, vous n'avez plus à parler. J'ai pensé à diviser donc la première partie de la soirée en deux sujets. Je vous parle d'abord du deuxième. Et vous savez qu'à propos de chacune des grandes fêtes, de commémoration dans le courant de l'année, nous avons l'habitude de lire une des Megillot, c'est-à-dire une des parties de ce qu'on appelle les Ktuvim, c'est-à-dire les livres de sagesse de la Bible, du Tanakh, qui est la Megillah qui est consacrée à Sukkot, c'est la Megillah de Kohelet. Et donc, nous étudierons, j'espère avoir suffisamment de temps pour aborder différents sujets à ce propos, un certain nombre de thèmes concernant la raison pour laquelle c'est le livre de Kohelet, de l'Ecclésiaste, qui est lu comme Megillah pour la fête de Sukkot. Mais pour la première partie de l'étude, peut-être il sera nécessaire de faire une petite absaca entre les deux, ça vous permettra de vous aérer un peu. Et j'ai pensé à étudier la formule que Ashkenazi à la fête de Sukkot. C'est la formule de Arhaman Uyakim Lanou et Tsukat David Anofele. Je traduis. Alors on demande que Dieu réinstalle Yakim, mais de telle sorte que cela soit définitif. Vous m'excuserez s'il m'arrive de ne pas trouver exactement le mot français exact, mais l'idée c'est le plus important. Et Tsukat David Anofele, ça signifie la Tsukka. Alors littéralement, au niveau de la traduction des dictionnaires, c'est la cabane en français. Et c'est exactement le terme dont on se sert pour les soukots qui sont commémorés à la fête de Soukot. La soukha de David qui est tombée à l'Ophélé. Dans le rite de Sfarad, il y a une toute autre formule. Je ne la cite même pas parce que ça mènerait à commencer à l'expliquer, ça prendrait trop de temps. En tout cas, je reviens à cette formule de la fête de Soukot. Avant cela, je voudrais en quelques mots, en quelques phrases plutôt, cette fête de Sukkot dans l'ordonnance du calendrier de l'année. Assez rapidement, j'espère que ce sera suffisamment clair, mais il y a un certain nombre d'indications qui sont indispensables pour ce que nous avons étudié par rapport à cette formule. Je vous indique tout de suite qu'on nous a distribué une page du commentaire de Malbim sur le verset 9, verset 11, si je me souviens bien. D'où cette formule est tirée, la soukha de David qui est tombée. Et vous savez donc qu'il y a trois niveaux de calendrier dans la commémoration que nous avons à l'heure actuelle. L'histoire d'Israël est très longue, il y a trois grandes époques qui ont chacune d'entre elles leur commémoration. Et il y a d'abord ce qu'on appelle l'époque biblique, les fêtes bibliques. Ensuite, il y a la période juive, les fêtes de la période juive. Et déjà de notre temps, il y a une troisième couche du calendrier, si je veux dire, qui sont la commémoration des fêtes israéliennes. Mais je reviens à la première période, la commémoration au niveau du temps biblique, des fêtes à proprement parler hébraïques, parce que c'est les événements historiques fondateurs de l'identité du peuple hébreu. Les juifs étant d'origine hébraïque, comme vous le savez, ils redeviennent hébreux ou hébraïques dans le temps israélien. Donc je reviens à la première période. Il y a deux grandes séries de commémorations. D'abord les Moadim, on pourrait traduire par les fêtes de pèlerinage, les Shalosh Regalim, Pessah, Shavuot, Sukkot, et qui commémorent les événements historiques fondateurs de l'histoire d'Israël. Pessah, la sortie d'Égypte, Shavuot, la révélation de la Torah au Sinaï, Sukkot, qui rappelle les 40 ans du désert et la protection particulière qu'a eu Israël pendant ses 40 ans du désert. Et vous avez appris, vous apprendrez encore d'autre part, pourquoi c'est par la commémoration des Sukkot que se fait ce rappel qui va Sukkot au châtier béni d'Israël d'aussi autant de Israël. Car c'est dans les Sukkot que j'ai fait résider les enfants d'Israël lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Quelques indications à ce sujet. Ce temps des 40 ans du désert est exceptionnel dans notre histoire. Je vais mettre en évidence un des thèmes à ce propos. L'histoire de tous les peuples montre qu'il y a d'abord une période de constitution de l'identité de ce peuple, de la société. Et à travers tout ce temps de constitution, parfois ça prend très longtemps. Prenez par exemple l'histoire de France, il a fallu des siècles pour que la France, en tant que pays tel que nous connaissons aujourd'hui, en tant que société jacobine, disons, se constitue. Et c'est à travers tout ce temps-là que ce secret se distille pour nous les institutions qui vont gérer l'identité de la société en question. Finalement, la loi d'une manière d'être homme par rapport à une société donnée est toujours seconde après une longue période d'histoire de gestation et de constitution de la nation comme telle. Alors qu'aucune société contemporaine, en tout cas, ne fait exception à cette règle. Sauf Israël, comme la Bible en raconte l'histoire. La constitution d'Israël est donnée a priori, la constitution dans le sens de Hukka, est donné a priori de sa constitution en tant que société. J'ai employé par hasard le même terme, mais je pense que l'idée est claire. C'est-à-dire la loi qui gère l'identité, la charte de l'identité d'Israël est révélée a priori de l'histoire qu'Israël va vivre, et il va vivre cette charte. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Et c'est vraiment un cas exceptionnel. Alors, entre autres raisons, pour mettre en évidence la finalité de ces 40 ans du désert, qui est une génération exceptionnelle à plus d'un titre, c'est que ça a été le temps d'apprentissage par Israël en tant que société de sa propre identité au niveau de la loi, de la charte d'identité, avant même de commencer son histoire. Et on apprend par différentes sources qu'il y avait une protection particulière pour le peuple d'Israël sorti d'Égypte, se constituant en nation pendant 40 ans sous la direction de Moïse, Aaron et Myriam, de telle sorte qu'ils aient le temps, le loisir, la disponibilité pour devenir cet Israël qui entrera dans l'histoire à partir de la conquête du pays de Canaan avec Josué. Or, la Torah nous raconte que toutes les péripéties de ces 40 ans du désert, c'est énormément plein de sujets. Je veux mettre simplement en évidence cette dimension qu'il était nécessaire qu'il y ait une protection particulière pour qu'il y ait le loisir de pouvoir former sa propre identité. Et je crois qu'on peut le rattacher à un problème existentiel des sociétés et qui pourrait se définir l'ensemble des nécessités du problème économique et de la protection. Et effectivement, on voit que cette génération a été privilégiée, elle est protégée, elle est préservée du problème économique et du problème militaire, et je n'entrerai pas dans les détails, en particulier, mais ce que représente cette protection, comme l'indique le verset que je citais tout à l'heure, il y avait une hashgacha, une providence particulière sur Israël pendant ces 40 ans du désert. Le fait que cette parenthèse de 40 ans soit définie comme étant prévue a priori ou a posteriori de l'histoire de la sortie d'Égypte, sujet, je l'indique pour être un peu plus complet sur le problème, mais les causes qui ont fait que ces 40 ans du désert étaient nécessaires et en jouer, c'est vraiment une époque, une parenthèse historique d'exception. On ne se rend pas souvent compte, parce qu'il y a une tellement distance de temps depuis, que toute notre référence de commémoration d'identité, en particulier à travers la commémoration des événements historiques fondateurs, se réfère aux événements propres à cette génération. Et ça, Shavuot, Sukkot, c'est des événements propres à la génération du désert. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est les mitzvot dans la foi où elles ont été révélées à la génération du désert, c'est-à-dire entre la sortie d'Égypte et l'entrée dans le pays de Canaan. Indépendamment d'autres caractéristiques de la stature de cette génération, que la tradition, en se basant sur le texte de la Bible, de la Torah, appelle Dor Dea, la génération de la connaissance, puisque c'est une génération qui a eu précisément ce privilège d'assister à l'événement de révélation, de dévoilement. Et c'est donc un temps exceptionnel, une parenthèse absolue. Le fait que cette génération est connue soit connue sous un nom péjoratif, c'est encore un tout autre problème. Quand on dit la génération du désert, en français, on ne se rend pas très bien compte qu'est-ce qu'on traduit de l'hébreu, d'or à Midbar. Et même en hébreu moderne, lorsqu'on dit d'or à Midbar, on traduit du français génération du désert remise en hébreu du dictionnaire. Mais c'est encore un autre sujet, mais je veux simplement le mettre en évidence. En particulier, c'est Judas Lévy qui en a parlé de la façon la plus directe dans le coup de la vie, en parlant d'ailleurs des fautes de cette génération. La connotation de l'expression génération du désert, c'est-à-dire génération perdue, génération de transition, qui ne fait partie ni d'avant ni d'après, je pense que c'est pas la peine d'analyser plus, ça vous est familier dans la signification en français. En fait, il faut comprendre, évaluer, définir les échecs de cette génération au niveau de leur grandeur, nous dit Judas Lévy dans le Kuzari. Alors, comme c'est vraiment un tout autre sujet, je me dois le signaler. Mais, en fait, d'autres armes, la génération de la connaissance, alors qu'à partir de ces générations de la connaissance, nous sommes des générations de la tradition. C'est-à-dire qu'ils se rattachent par le lien de la mémoire à ce qui a été l'événement de dévoilement de cette génération-là. Donc, c'est suffisamment clair. Et je verrai peut-être un des problèmes qui pédagogiquement est assez important immédiatement là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que dans les autres générations, jusqu'à la destruction du temple, il y a eu, à l'échelle individuelle, le cas particulier des prophètes qui participaient à ce dévoilement, à cette révélation, la prophétie, mais la génération du désert était tout entière prophète. Et les autres générations ont vécu dans un autre monde que le nôtre grâce à la présence des prophètes en leur sein. C'est-à-dire, par rapport au temps du désert, nous sommes encore à différents étages en dessous. Il y a après le temps du désert, le temps des juges, le temps de la première royauté, du premier temple, ensuite l'exil de Babel, ensuite le deuxième temple, et ensuite, ça commence il y a 2000 ans seulement, l'exil qui prend fin avec nous aujourd'hui. Alors, oui, l'épaisseur de durée et de profil d'identité qui nous sépare de cette génération de Dordéa, qu'on pourrait dire en français une génération de géants, alors que par rapport à eux, nous sommes vraiment des nains montés sur des épaules de nains et qui se prennent pour, on ne sait pas quoi, mais enfin, rien. Je reviens au sujet de café, qui était extrêmement important. Vous voyez que lorsque nous commémorons à travers des rites, comme par exemple des rites de Sukkot, un événement historique donné, et chacun avec sa capacité d'assomption de signification, si je pourrais dire, est à un certain niveau de réminiscence par la signification que chacun avec sa kavana, avec sa ferveur propre, est capable de donner à ce qu'il commémore, eh bien, nous commémorons des événements de dévoilement dont nous n'avons aucune idée, sinon à travers l'étude, et un niveau d'étude qui parfois nous donne le mérite d'entrevoir par l'intuition qu'on appelle Ruach HaKodesh de quoi pourrait-il s'agir pour cette expérience de révélation des prophètes à travers toutes les générations où il y a eu la prophétie. Et cette génération du désert était cette Dordéa dont j'ai parlé. Voici la parenthèse que je voulais ouvrir, après je reviendrai à la deuxième série de commémoration des jours du temps biblique dans le calendrier hébraïque, qui est le premier calendrier que nous commémorons, le deuxième étant le calendrier juif. Par exemple, les fêtes comme Purim, Hanouka, ça fait partie de l'histoire juive, et postérieure à l'histoire biblique, et de notre temps, les grandes fêtes du calendrier israélien, grâce à Dieu, il y en aura encore. Mais je reviens au. C'est pas fini. En tout cas, je reviens au sujet. C'est très souvent, j'ai des conversations avec des gens de très bonne foi qui me disent qu'ils n'ont pas la foi, qu'ils ne sont pas croyants. Et j'ai pas l'extrait en disant de mauvaise foi, de bonne foi. Et j'arrive assez rapidement à comprendre et parfois à faire comprendre qu'en réalité, je me dis que je ne suis pas prophète. Ça veut dire que beaucoup de gens croient qu'ils n'ont pas la foi. Parce qu'en réalité, leur secret désir, ce serait d'être prophète, et qu'ils confondent. Est-ce que c'est clair? Bien entendu, il y a derrière un abîme d'orgueil, mais c'est un autre problème. Et alors, très souvent, il suffit d'une mise au point un peu patiente pour mettre les choses au point. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas peine d'analyser parce que ça m'aurait énormément de tangentes à explorer. Alors réfléchissez, quand quelqu'un vous dit j'ai pas la foi, demandez-vous qu'est-ce qu'il veut dire. Peut-être qu'il veut dire que je suis pas prophète. Alors ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est clair? Alors il y a donc le temps hébreu, c'est le temps de la prophétie, le temps juif, c'est le temps de la foi en la connaissance de cette. Dans le contenu de connaissance de cette prophétie. Donc là-dessus, la transmission et la pédagogie y afférente, c'est un monde de problèmes. Je reviens donc à notre âme. Je reviens dans le temps hébraïque, nous avons toute une série de commémorations des événements historiques fondateurs. L'un d'entre eux est Sukkot, et qu'il commémore en particulier ce caractère exceptionnel de la parenthèse de privilège d'une histoire d'une société entière qui était hors du temps économique et historique classique. J'insiste parce que pour la tradition juive, c'est le problème économique qui est véhicule du problème moral. Et je crois qu'il y a là un sujet important, alors je vais l'indiquer assez brièvement. Nous avons été créés comme créatures données aux nécessités économiques, parce que ce sont les situations économiques qui créent les situations d'échange de moralité. Est-ce que ça suffit de dire comme ça, okay. Et par conséquent, le fait que la tradition avec laquelle nous enseigne que la génération du misère n'avait pas de problème économique, c'est la première chose qu'on entend, c'est très important. Il se nourrissait de la manne, le pain du ciel, et buvait l'eau puis de Myriam, il n'y avait pas de problème de Mekorot, les conduites d'eau, vous savez, toute l'histoire, ni non plus de Massar Nassa, etc. Et puis d'autre part, la protection contre le monde extérieur, dès qu'il y a un thème d'étude dans le Talmud, un enseignement à un certain niveau dit qu'ils étaient entourés des nuages de la gloire. Un année Kavod les protégeait, leur disent qu'ils étaient protégés par les Sukkot. Une troisième perspective nous fait comprendre que les Anané Kavod et les Sukkot c'était la même chose. Donc là, nous sommes au niveau de la commémoration des Sukkot. Quelques mots là-dessus, c'est le fait que le témoignage qu'il y avait protection, c'est qu'on a choisi d'habiter pendant ces 40 ans dans des Sukkot, c'est-à-dire dans les habitations les plus précaires qu'aucune civilisation ne pourrait inventer. Et c'est noté dans le calendrier des commémorations, au moment de la fin de l'été, au contraire, on quitte les résidences secondaires plus ou moins précaires pour entrer dans la résidence principale, à ce moment-là, Israël donne le témoignage qui se rappelle cette providence de protection et il quitte la maison principale pour entrer dans la résidence secondaire. Même dans les situations contemporaines, on joue à Sukkot, ça s'appelle le club méditerranéen. Enfin, il y a derrière la protection de la cité malgré tout. Et pourquoi je me demande au fond que, je ne sais pas, je pense tout, que si on arrive à avoir la ferveur suffisante, la Kavana, quand on est dans la Soukha, on est vraiment dans une maison précaire mais protégée. Et, je ne sais pas si c'est clair. Bon. Alors, je reviens donc à cette définition, c'est que, pour la terminer, le rapport, je rappelle, la Soukha représente ce privilège exceptionnel qu'a été la génération du Héthor. Alors la deuxième série des commémorations, c'est ce qu'on appelle les Yamim Noraïm. Nous avons donc deux de calendrier de commémoration dans l'année. Un, les Moadim, les Régalim, et ça, Shavuot, Sukkot. D'autre part, les Yamim Noraïm, qui sont, je commence à les énumérer, nous sommes familiers, Rosh Hashanah, Yom Kippour, mais dans les derniers siècles, les maîtres de la tradition, une tradition d'origine kabbaliste, ont institué un troisième jour de complément des Yamim Noraïm, qui est Hoshana Rabba, que nous commençons ce soir. Hoshana Rabba, s'articule à ces deux registres de calendrier. Alors je commence par le deuxième registre, qui est celui des Yamim Noraïm. Les Yamim Noraïm, c'est le jour de la mise en jugement de l'histoire humaine. Et c'est pas le sujet, mais je n'entre pas dans les détails, simplement la qualification générale du thème que représentent les Yamim Noraïm. Et à travers l'humanité, c'est le monde entier qui finalement est jugé. Si vous êtes familier au texte en particulier de Rosh Hashanah, vous voyez la dimension, l'envergure que prend cette prise de conscience à Rosh Hashanah du jugement de la créature par le Créateur, non à l'échelle universelle, mais à travers Israël. Eh bien, ce jugement est fait à travers la Midat Hadin, c'est-à-dire la mesure du jugement la plus rigoureuse. Pour le dire assez rapidement, je prends des formulations du Talmud, seuls les tzadikim, ceux qui sont vraiment tzadikim, passent au jugement de Rosh Hashanah. Pour les autres, il y a un sursis. Il y a un sursis. Il y a un deuxième jugement qui s'appelle pas le jour du jugement, mais le jour de l'expiation et du pardon, c'est Yom HaKippourim. Et là, l'humanité est jugée par la Midat HaRachamim. C'est la mesure du jugement, mais par la miséricorde. C'est la justice, mais qui se fait gentil. Alors là, le jour de Kippour, les bonhommes, les gens qui sont les gens, dont vous avez compris, ceux qui, je crois que Jean en français c'est péjoratif, ceux qui sont ni vraiment tsadikim et que ça, ni vraiment rachaï, on les appelle les bénonim. Les bénonim, ça veut dire les gens moyens, en traduction de dictionnaire. Et je vous dis une petite parenthèse d'ailleurs tout de suite sur la définition de bénonim. Et alors là, les bénonim, c'est à peu près tout un chacun. Parce que personne ne peut se dire je suis ni tsadik ou rachaï. Nous vivons à travers la durée. Il y a des moments où on est sadique, il y a des moments où on est plutôt sadique, il y a des moments où on est plutôt rachat. Mais dans la récapitulation du jugement d'identité, qui peut dire qu'il est sadique ou rachat? Sauf des cas exceptionnels. Dans les deux cas d'ailleurs, il y a très peu de tzadikim gmurim, il y a très peu de rachaim gmurim. Il y a un grand rav de la Gemara, son nom me reviendrait, mais le rav qui avait l'habitude de citer ce rav, qui était satisfait de pouvoir dire à la fin de sa vie, j'ai jamais vu un rachat. Pourquoi il aimait les juifs? Il passait sa vie à regarder les juifs, il a dit, j'ai jamais vu un rachat. Comment il faisait? Et alors, ça c'est le bel ami. Et la Gemara, c'est ce que j'ai cité en parenthèse, s'est posé la question. Et les Amoraïs, c'est-à-dire les grands de la Gemara, les grands-mères de la Gemara, ont posé la question. Benonim Teman. Benonim, c'est comme par exemple qui? Et ils répondent d'eux-mêmes, Anna. Nous sommes les Benonim. Qui parlait les grands-mères du Talmud? Je vais trouver à quel niveau ça se passe, un Benonim. Comme disait le Rambam Maïmoni, pour citer cette source dans la Gemara, disait, il citait ces mêmes Amoraïm qui disaient « Si les Rishonim, si les premiers étaient des anges, alors nous sommes des hommes. Et s'ils étaient des hommes, nous sommes des âmes. » Et qui disait ça? Les maîtres de la Gemara. Alors, Maïmoni, vous entendez qui c'est Maïmoni? Maïmoni disait en parlant d'eux, « Dieu était des anges. Nous sommes des hommes, et s'ils sont des hommes, nous sommes des âmes. » C'est Maïmoni qui parle. Alors nous, pour que nous. Alors ça, c'est les bénonim. J'ai entendu une fois une très jolie explication grammaticale. C'est en dindouk, en grammaire, le temps présent, ça s'appelle bénonim. Okay. Alors on pourrait traduire ça comme ça. Ça veut dire celui qui vit aujourd'hui. Celui qui vit dans un éternel présent. C'est un bénonim. Je referme la parenthèse. Et alors, ça, c'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour, on traversait le jugement, les Benonim. Vous voyez pourquoi? Déjà, le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour terrible, mais c'est un jour de fête. Et peut-être, je dirais quelques mots là-dessus. Ça peut apparaître comme contradictoire. Imaginez la terreur que pourrait, en dehors de la tradition juive, avoir cette idée prise au sérieux que le Créateur du monde nous juge et qu'on est au jour du jugement. Mon trembleau, est-ce que vous écoutez les idées du miel dans la pomme? Eh bien non, dans l'atmosphère des maisons juives, d'une communauté juive, c'est un jeu de tête, Kyoto. Bien que ce soit le jour du jugement. La réponse est très simple. C'est parce que nous savons que le Créateur, c'est vraiment le Créateur. Et que ce n'est pas une idée monstrueuse, impersonnelle et secrétant cette panique de la relation à la loi dont parlent par exemple les psychanalystes lorsqu'ils parlent du Père. Bon, je résumais beaucoup de choses en un pas de c'est-à-dire au fond, ceux qui ont peur du Créateur, c'est qu'ils n'y croient pas. Je ne sais pas si c'est clair. Il faut faire une consultation. Mais je dis, normalement, bon, c'est clair. C'est-à-dire, le juif qui pratique le Rosh Hashanah, c'est répond à cette injonction d'art ou chimie à ta revêtre. Vous voyez le sens qu'elle prend, sage de l'antique de trou, devant le juge. Mais c'est ton Créateur. Alors, c'est pas la peine de dire plus, ok? Si on prend au sérieux de quoi on parle, alors on est à la fois très dans le sérieux du jugement, mais très rassuré, c'est pas n'importe qui nous juge. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors on continue. Le jour de Kippour, alors on est devant une présence du juge encore plus miséricordieuse que celle de Rosh Hashanah. Et le Rosh Hashanah là-bas, et donc, par coïncidence que nous allons voir la fin du cycle des Moradim, le dernier jour de Sukkot commence ce soir, et c'est en même temps le dernier jour de Yamim Noraim, alors c'est la Midat HaChesed qui juge l'humanité. C'est-à-dire on est jugé par la vertu de la grâce gratuite, charité absolue, totale. Tout le monde passe. Donc, vous êtes rassurés. Ça, c'est le jour de Shana, c'est le jour qui tourne de Réchaïm. Et vous voyez qu'il y a tout un cheminement dans le déroulement des commémorations où nous vivons ces différentes étapes, tout un itinéraire de la relation au Créateur en tant que juif pendant les Yamim Noraim. Alors c'est pourquoi le jour de Rosh Hashanah est à la fois la liturgie, celle de Kippour et celle d'un jour de fête. Et vous voyez à peu près la transition de Yom HaKippour, Yom HaKippourim, Rosh Hashanah. Et c'est en même temps l'achèvement du cycle des commémorations de toute cette période de gestation de l'identité d'Israël, à partir de quoi l'histoire d'Israël. Le lendemain de Rosh Hashanah Rabba, nous avons le 8e jour du lendemain de Sukkot, c'est-à-dire Shemini Chaga Atzeret. Et Shemini Chaga Atzeret, c'est le jour où on recommence l'histoire. Et on recommence à lire la Torah à Bereshit, précisément, c'est-à-dire Shabbat. Et donc demain, dans le calendrier hébraïque, nous sommes déjà aujourd'hui. Et là, donc Shabbat, ça se relie à la question que je pouvais reformuler. Pourquoi on ne commence pas à lire à la Torah Bereshit le jour de Rosh Hashanah, mais précisément à Simchat Torah. Si vous permettez, on va quand même ouvrir un peu, parce que je crois que jusque-là il y avait des juifs, mais bientôt il y aura des juifs.
Bon, ça suffit.
Ah oui, après on refermera si tout, mais vous pouvez. Très bien. Voilà donc ce que je voulais indiquer, c'est qu'il y a un parallèle entre les commémorations qui se font. Dans l'année qui commence au mois de Nissan, et les commémorations qui sont dans l'année qui commence au mois de Tishri. Il y a un parallèle entre la semaine de commémoration de Pessah et la semaine de commémoration de Sukkot. De la même manière que Pessah commence le 14 Nissan, Sukkot commence le 14 Tishri. Et le jour de Rosh Hashanah correspond en Tishri à ce que chez l'Iish le Pessah à Nissan, c'est-à-dire le passage de la mer Rouge. Et je vous ai une petite parenthèse historique de l'histoire contemporaine tout à l'heure. Et puis, nous avons donc quelque chose d'assez parallèle. Pessah à Nissan et Sukkot à Tishri. Alors vous savez que Pessah dure 7 jours, alors nous sommes en Israël, oubliez le deuxième jour de fête de la Galoute, on reprend le calendrier biblique original, et Pessah dure 7 jours, et il y a un huitième jour de Pessah qui est décalé de 7 semaines et qui est Shavuot. C'est clair pour tout le monde, hein? Shavuot s'appelle Atzeret de Pessah. Et en fait, c'est la seule fête de commémoration des Moadim qui n'a pas de date dans le texte biblique. On compte 50 jours à partir du lendemain du premier jour de Pessah. Aucun verset qui institue Shavuot comme une date en soi. Shavuot est l'achèvement de Pessah. Et alors, ce parallèle, nous allons le retrouver entre Sukkot et Shmini Haatzeret. Shmini Haatzeret correspond à Shavuot par rapport à Pessah. Je répète la formule. Shmini Haatzeret de Sukkot, la culture de Sukkot, qu'on appelle Simchat Torah, correspond à Shavuot par rapport à Pessah, et Shavuot par rapport à Pessah, on l'appelle Matan Torah. Vous voyez quel est le parallèle ? Tout se passe comme s'il y a deux projets de l'histoire. Un qui commence à la sortie d'Égypte et qui est situé dans une année de temps de commémoration commençant à Nissan, et l'autre qui commence à Tishri au moment, avec l'année qui commence le premier du mois de Tishri, c'est Rosh Hashanah, au moment où on reprend en charge le jugement à l'échelle de la création tout entière. Donc là, il y a encore un sujet qui me prend trop de temps, je me borne à l'indiquer en passant. Les événements qui concernent strictement l'histoire d'Israël sont tous logés dans la commémoration du calendrier qui commence à Nissan. Les événements de l'histoire universelle sont tous logés dans le calendrier de commémoration qui commence à Nissan. Par conséquent, ce décalage entre les commémorations de Nissan et les commémorations de Tishri, c'est le décalage entre le temps de l'année d'Israël et le temps de l'année universelle. Ceci dit formellement, ça veut dire le niveau historique de l'identité d'Israël et le niveau historique de l'identité du reste de l'humanité. Le jour où ils coïncideront, c'est le niveau, ces deux calendriers s'unifieront. On ne va pas plus sur ce sujet. Donc, au moment de la sortie d'Égypte, ça devait être Sukkot. Et 7 jours de Pessah. J'ai pas le temps, mais si vous voulez, je cite les versets. Que dès que Israël est sorti d'Égypte, il est allé dans un endroit qui s'appelle Sukkot. Et donc on aurait a priori commémoré les 7 jours de Pessah dans la Soukha. Tout de suite. C'est-à-dire, si les deux niveaux de temps, le temps d'Israël, le temps d'Égypte, avaient coïncidé au niveau du mérite, alors nous n'aurions pas deux calendriers décalés. Est-ce que c'est suffisamment... C'est mystérieux ce que je vous dis là, mais c'est suffisamment clair quand même. C'est clair qu'on ne comprend pas. Alors, je reviens au sujet. Et c'est déjà préfiguré par le fait que dans l'histoire de Jacob, vous retrouverez le texte, parce que Jacob, après sa rencontre avec Ésaü, l'échange dans cette rencontre avec Ésaü, c'est une sorte de cérémonie de Kippour. Si vous comptez le nombre des bêtes du troupeau qu'il envoie en offrant à Ésaü, vous avez la valeur numérique de Seir qui est, bon, bref, le Seir Lazazel. Je referme la parenthèse. Vous indiquez que Jacob, dans son histoire personnelle, a eu l'expérience de l'expiation de Kippour dans sa rencontre avec Ésaü. Et juste après, le texte, normalement, dit, et il va dans un endroit qui s'appelle Sukkot, et il construit des Sukkot pour son troupeau. Donc il y a, dès l'origine de l'histoire, alors qu'elle est encore en préfiguration au niveau des patriarches, au niveau de la sortie d'Égypte, l'histoire se fait dans les Sukkot. Et j'en arrive donc à ce parallèle entre Shavuot et dans le calendrier de Nissan, et Shmini Haatzeret dans le calendrier de Tishri. Dans les deux cas, on commémore la Torah. Il y a deux niveaux très différents. Entre-temps, s'est passée l'histoire. Et l'histoire, c'est l'histoire de la faute. lorsqu'on a un sujet pour lui-même, on raconte le passé en tant que passé que s'il n'a pas réussi. Alors ce qu'on nous raconte, c'est les fautes. Vous avez remarqué, on nous raconte les espérances de la réussite ultime. Mais vous avez remarqué que le récit de l'humanité dans la Bible commence par une faute. Vous avez remarqué ça. C'est comme si la vie commence par le mot de Chaïm en hébreu, commence par la lettre Chaïm. Bon, c'est une coïncidence, mais je reviens au sujet. Eh bien, voilà ce qui se passe. Alors, très schématiquement, les différents rythmes de temps. 52 après la sortie d'Égypte, c'est le 6 sylabe révélation de la Torah. Et c'est bien certain. Pendant 40 jours, Moïse monte sur la montagne pour recevoir les 10 tamous. Lorsqu'il redescend, c'est le 17 tamous, et pendant ce temps, dans le camp, il y avait la faute du redor. Il brise les 10 tables, les deux tables des 10 commandements, j'ai dit les 10 tables, hein, oui, les deux tables des 10 commandements, et il remonte pendant 40 jours pour prier pour que la punition du peuple soit suspendue. Et on arrive au premier élite. Et ensuite, pendant 40 jours, il reçoit les deuxièmes tables, et quand il redescend, c'est le 10 Tishri, c'est-à-dire le premier jour de Kippour historique. Et alors, donc, le jour de Kippour, qui est le 10 Tishri, commémore la révélation de la Torah compte tenu de la faute et du repentir, a posteriori de la faute et du repentir. Et le jour de Kippour, nous commémorons le premier Kippour historique qui a été, dans la génération du désert, le fait que les deuxièmes tables ont été rendues à Israël. Mais les premières tables et les deuxièmes tables ont toute autre signification. Les premières tables, c'est les tables de Tzadikim, a priori de toute faute. Et de la même manière que, je vais une parenthèse analogique, on ne se marie pas en vue de l'éventualité d'un divorce si ça ne marche pas, hein, on ne se marie pas pour divorcer éventuellement, de la même manière, on ne reçoit pas la loi en vue d'un pardon éventuel qui a une faute. Et à un certain niveau, je cherche un adjectif, mais je pense que l'idée est claire, impitoyable, terrible, absolu de la loi, qui est a priori de la faute. Et c'est ainsi, je crois d'ailleurs, que la philosophie des Goïms entend la loi. À la première faute, on est perdu. D'ailleurs, pour laquelle ils ont une panique totale de la loi, dans leur foi. J'ai remarqué, ça va vous m'écrire deux fois, là. En tout cas, pour revenir, j'ai jamais compris, il y a énormément d'études pour entrevoir cela. Dans mes conversations avec les non-juifs, j'ai jamais compris cette panique de la loi qu'il y a chez les goïms. J'ai remarqué de quoi je parle avec elle, jusqu'au moment où j'ai compris qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est une Torah. Ils pensent à la loi comme un citoyen de l'Union soviétique pense à la Constitution soviétique. Moi, je suis le cas. La panique. Regardez, à Simchat Torah, on danse avec la Torah. Vous avez vu, vous, des Français du 14 juillet dansant avec la Constitution. En Israël, c'est ce phénomène, un peuple qui aime sa loi. Et c'est de cette loi dont les goïms n'ont pas du tout absolu. Ils ont aucune idée de ce que la Torah. Et alors, je vous donne une petite explication philosophique très, très. Les points qui sont arrivés à projeter chez énormément de juifs cette panique de la Torah. Fais attention, si tu n'as pas le Talmud Torah. Bien sûr. En tout cas, pour revenir au sujet, c'est que il se représente une notion impersonnelle de la loi. La loi morale, ce n'est pas l'expression de la volonté de quelqu'un qui serait, comme on l'a vu tout à l'heure, le créateur et le père des créatures. Non, c'est des principes impersonnels, impitoyables et froids et monstrueux, mi-fiosés. C'est leur conception de la Torah. Derrière cette conception de la loi, il y a un athéisme profond. Lorsqu'on dit que c'est la loi de Dieu, on n'admet pas que Dieu ce soit quelqu'un. Et Dieu c'est quelqu'un avec qui le peuple juif est en dialogue dans sa liturgie, en savant, en discute, en prie. On prie à tous les niveaux de la prière, et on prie. On ne prie pas une loi impersonnelle. Devant la loi impersonnelle, il y a la panique absolue. Alors d'où la formule de refus de la loi. La loi ne sauve pas, la loi condamne. Vous avez compris que c'est une mentalité athée, cette mentalité de la terreur de la loi. Alors, c'est cette histoire que je vous raconte entre... c'est clair ce que je dis, d'accord ? Entre Shavuot, la révélation de la Torah, a priori de toute faute, et deuxièmement, Matan Torah, la révélation de cette Torah, compte tenu de l'éventualité de la faute, et s'il y a faute, il y a repentir et donc pardon. Alors c'est pourquoi c'est à Simchat Torah qu'on dit Simchat Torah, Simcha. Alors qu'à Matan Torah, on dit Matan Torah, Matan. Matan, ça veut dire, voilà, tiens un cadeau, mais c'est à toi que c'est qui acquiert. Et il faut le faire. Je traduis en français. Matan Torah, c'est le bon de la Torah. Alors on m'a fait cadeau de la Torah. Elle est dans ma bibliothèque. Est-ce que j'ai la Torah? Non. Il y a un livre dans ma bibliothèque. J'ai pas la Torah. Il faut que je la prenne, que ce soit moi. C'est le livre de Torah qui... vous voyez pourquoi j'ai parlé du Talmud Torah? C'est le livre de Torah qui transforme le Matan Torah en Kinyan Torah. Et dans ce Kinyan Torah, cet apprentissage d'acquisition de la Torah, il y a toute la vie, et le jeu de la vie, et donc le risque de la faute. Parce que notre handicap originel, c'est pas d'être pécheur, c'est d'être libre. Et parce que libre, capable de fauter. Mais comme il s'agit d'un Dieu qui sait que c'est comme ça que nous sommes, parce que c'est comme ça qu'il nous a fait, alors donc il y a un espoir, il y a une issue. Vous voyez, nous sommes dans un monde complètement différent que le monde de la philosophie d'homme. Même quand elle s'appelle théologie. Je pense que c'est clair. D'ailleurs, j'ai souvent dit que ils font des fautes orthographes. Quand ils disent la théologie en deux mots, c'est elle apostrophe à théologie. Voilà, je voulais dire que c'est problème. Pour revenir à notre problème, c'est que lorsque, oui, ce cycle de l'histoire achevée s'est achevé, c'est-à-dire révélation de la transcendance de la loi transcendante, l'histoire qui est formulée au niveau de ce qui s'est passé le 17 Tammuz et l'expiation qui a suivi le 10 Tishri, alors après Kippour, on reçoit la Torah avec joie. Est-ce que c'est clair? Mais ça, c'est Simchat. Alors il y a une dialectique entre les 7 jours de Sukkot et le 8e jour qui est Shemicha Atzeret. Qui va être un des sujets de notre étude, mais je commence d'abord par cette indication de l'expression, qu'est-ce que signifie cette expression « Soukat David à l'enfer ». Alors, je voulais très rapidement donner deux indications concernant la place du personnage du roi David dans la commémoration de Soukot. Vous savez que chaque jour de Soukot est placé sous le signe de la présence d'un des piliers de l'identité d'Israël. Que nous appelons les Ushpizim, c'est un mot du Talmud, qui signifie les hôtes, les invités de la Souka. C'est-à-dire la Shrina, qui protège la Souka, prend chaque jour le visage d'un des fondateurs de l'identité d'Israël. Les Shiva Ushpizim. C'est un mot dérivé du grec. Et vous voyez derrière le mot de hôte, avec dans l'ancien français il y avait un S, comme par exemple dans hospital, là où vient l'hospitalité. Et alors, en tout cas, le premier jour c'est Abraham, le deuxième c'est Yitzhak, le troisième c'est Yaakov, le quatrième c'est Moshe, le cinquième c'est Aaron. Je vous dis l'ordonnance de la tradition kabbaliste. Et après, je dirai l'autre. Le sixième, c'est Pinhas. Et le septième, c'est David. Alors vous avez dans le livre imprimé de la tradition des Pashtuni un autre ordre que je vais lire tout de suite. Je voudrais qu'on nous fasse le sikhot, comment les deux ordres sont faits à la fois. C'est Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, David. Ça c'est la lecture des Pashtuni. Comment traduire ça en français? En fait, les noms kabbalistiques. Mais en fait, au niveau de la signification kabbaliste de ces différentes valeurs qu'ont représenté chacun des patriarches, l'ordre c'est Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Pinchas, qui reprend la valeur de Joseph après Moïse, Aaron, Yesod, okay, et ensuite Don. Donc le septième jour de Sukkot, c'est la Sukkah de David. Bien. Alors là, il y a énormément de thèmes. Je vais mettre en évidence un de ces thèmes d'étude que nous allons suivre. D'ailleurs, à travers, pas tout de suite, mais je l'annonce, à travers le verset du prophète Amos qui parle de la Sukkah de David. Et nous verrons essentiellement le commentaire du Malbim à ce sujet. Mais je voudrais d'abord donner un certain nombre d'autres vêtements. Or, en principe, le roi David nous est connu comme étant celui qui aurait dû construire le temple. Est-ce que c'est bien clair? Et ce que le Talmud enseigne, Dieu va s'aligner. Mais ça, ce sera la deuxième partie de l'étude. Et la raison que dans le Talmud, c'est que David n'a pas construit le temple. Parce que comme il a fait la guerre, il était donc un homme de guerre, et il ne pouvait pas lui construire le temple, c'est le roi Salomon qui est homme de paix qui doit construire le temple. Donc, c'est la raison connue, parce qu'elle vous est familière. Et